Mais tout d'abord, on ouvre l'émission sur une question juridique, celle de l'accès à l'égalité en emploi pour les personnes handicapées dans les organismes publics. Il y a bien sûr une loi provinciale assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, mais ce n'est pas suffisant pour assurer un accès au marché du travail aux personnes en situation de handicap, notamment parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination, de perceptions négatives et de préjugés face au handicap. Pour nous en parler davantage, j'accueille dans nos studios Mme Christine Rousseau, animatrice à Ami Télé, mais aussi avocate. Bonjour Christine.
Bonjour Maxime.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, merci. Donc, avant de plonger en fait dans cet exercice juridique ce midi, on va faire une mise en contexte sur le droit au travail au Québec.
Oui. En fait, c'est que le droit au travail, moi, je l'emploie beaucoup parce que je me dis que tranquillement, ça va entrer. Mais c'est qu'on a une protection contre la discrimination en vertu de la charte. Ça, on est bien au fait de ça. C'est que... Mais on n'a pas comme tel un droit au travail. J'ai un droit à l'égalité dans l'accès au travail. Là, vous allez me dire, écoutez, là, c'est de la sémantique. Ça l'est un petit peu, c'est vrai. Sauf que pour lutter contre ce qu'on voit en termes de discrimination systémique, quand on regarde les statistiques, par exemple, en 2006, l'Institut national de la statistique du Québec notait que seulement 36 % des personnes en situation de handicap avaient un emploi, alors que dans la population en général, on était à 72 %. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nécessairement, il y a un problème. Donc, le problème, il est tellement complexe qu'on dit qu'il est de nature systémique. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ramifications sur lesquelles il faut qu'on travaille pour réussir à augmenter donc ce taux d'emploi-là des personnes en situation de handicap. Et quand je regarde la charte québécoise, ben j'ai une protection contre la discrimination dans l'accès au travail et une fois que je suis au travail, dans mes conditions de travail, mais je n'ai pas de poignée, disons, qui va m'assurer un travail. Je peux pas obliger quelqu'un à m'embaucher.
Tout à fait.
Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Quand je veux dire qu'on n'a pas de droit au travail, c'est que je ne peux pas obliger quelqu'un à m'embaucher, dans ce sens-là. Sauf que on a la loi assurant, donc comme tu le disais, Maxime, la loi, avec le très, très long titre, là, assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Dans cette loi-là, on a un chapitre sur le travail, un seul article qui y demeure parce que les autres ont été abrogés, mais l'article qui est là, qui concerne l'emploi, c'est l'article 63, qui nous dit que le gouvernement québécois a l'obligation d'adopter une stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Et il faut le dire, cette loi-là, justement, qui vise la pleine participation dans toutes les sphères de la vie des personnes en situation de handicap, elle date quand même de plusieurs années, mais il y a eu plusieurs refontes. Elle a été quand même modifiée au cours des années.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, cet élément-là de stratégie qui est demandé, ça fait quand même, ça fait pas si longtemps.
Non, ça fait pas si longtemps, parce que même quand on regarde l'article 63, on voit qu'il y avait des dates d'inscrits. Donc, le gouvernement, quand il a adopté cette loi-là, il s'est dit « Oui, d'accord, je vais obliger le gouvernement à adopter une stratégie nationale pour justement travailler là, sur mon fameux 36 %, entre autres, et pour le faire augmenter, évidemment. » Et donc, il a mis des dates. Donc, non seulement le gouvernement devait adopter cette fameuse stratégie qui allait travailler là, sur les différents axes là, qui fait en sorte qu'on a cette situation-là là, de discrimination systémique en emploi. Et les deux dates qu'on a, on a décembre 2007 et on a décembre 2009. Donc, déjà d'intégrer dans la loi. Alors, décembre 2007...
Qu'est-ce qu'on attend pour, justement, décembre 2007?
C'est ça. Et donc, décembre 2007, on s'attendait à ce que le gouvernement dépose devant l'Assemblée nationale un rapport concernant l'avancée des travaux pour l'adoption d'une stratégie. Et ensuite, en 2009, on s'attendait à ce que la stratégie était là et qu'on allait évaluer, donc, quels étaient les effets et l'impact, donc, de cette stratégie-là.
Justement, cette stratégie qui a été adoptée entre ces deux dates butoirs en 2008 et qui comportait deux phases. La première de 2008 à 2013 et la seconde de 2014 à 2018, dans le but justement d'avoir ce délai de 10 ans pour atteindre cet objectif.
Oui, ben en fait, je t'explique. Effectivement, il y a un objectif. Et là, c'est là qu'on est au cœur du problème, ou en fait de l'enjeu surtout. Donc, le gouvernement adopte une stratégie. Il a fait ses devoirs et il a adopté une stratégie en 2008. La stratégie devait s'échelonner sur un délai de 10 ans, comme tu le dis, et puis en deux phases. L'objectif, le seul objectif de résultat, qui est extrêmement important ici, de résultat, était de réduire de moitié l'écart que je vous expliquais tout à l'heure. Parce qu'on se dit, d'un côté, on a 36 % seulement des gens en situation de handicap qui travaillent. De l'autre côté, dans la population générale, on a 72 %. Donc, cet écart-là entre les deux, là, on veut le réduire de moitié.
Justement, si on considérait aujourd'hui que la statistique dans la population générale tournait toujours autour du 72 %, ça voudrait dire que notre objectif en employabilité chez les personnes en situation de handicap se chiffrerait autour de 54 %.
Exactement. Si on fait le calcul, là, en gros, ça ressemblerait à ça. Ce qui s'est passé, et puis là, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que moi, j'ai commencé à travailler sur ce thème-là dans le cadre d'un livre, le prochain livre de Maître Maurice Drapeau de la Commission. Son troisième chapitre va porter sur la discrimination faite en emploi. Et là, je me suis mis à fouiller et tout. Puis là, je me rends compte que le bilan de la première phase, donc de 2008 à 2013, est sorti. Sauf que la deuxième phase n'a jamais été enclenchée. Et là, c'est là le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Le gouvernement avait une obligation légale pourtant, donc d'adopter la fameuse stratégie. Le problème, c'est que là, on glisse un petit peu entre les mailles du filet. On a respecté notre première phase. On a adopté une stratégie. On a même fait un bilan. Donc, comme la deuxième date nous le prévoyait dans l'article 63. Mais écoutez, après ça, pour la deuxième phase, ça a été laissé vraiment tomber dans l'oubli.
Justement, ce bilan-là qui a été fait à l'issue de la première phase. On va clôturer cette première phase-là avant de s'attarder à la deuxième phase.
Oui.
Est-ce que le milieu associatif a été consulté? Qu'est-ce qu'on a fait pour voir qu'est-ce qui avait été accompli
Tout
dans cette
fait.
Première phase?
Autant avant l'adoption de la stratégie, le milieu associatif a été consulté, qu'après coup, après la première phase aussi. Il y a eu toute une ronde de consultation avec le bilan. Donc, pour être capable d'aller de l'avant. Donc, tout était mis en marche là, pour être capable d'aller de l'avant et puis pouvoir enclencher la deuxième phase.
Mm-hmm.
Et donc, tout le milieu associatif ont produit chacun leur rapport et tout pour donner leurs recommandations, ce qu'ils en pensaient du bilan et selon eux, ce vers où la deuxième phase devait aller.
Oui, justement. Et c'était quoi, justement, les recommandations ou du moins quels ont été les objectifs qui ont été identifiés pour la deuxième phase?
Oui, bien en fait, dans le bilan, là, ce qui est étonnant, vous vous rappelez tout à l'heure, on s'est dit qu'il y avait un seul objectif de résultat.
Mm-hmm.
Bien, on tourne autour du pot tout au long du bilan. On parle plutôt des 61 actions qui étaient aussi dans la stratégie. Les 61 actions, bon, qui tournent souvent autour de favoriser, promouvoir et sensibiliser. Mais le seul objectif de résultat, donc, est pratiquement écarté. On n'en parle pratiquement pas, directement, en tout cas, dans le bilan. En plus, au niveau des mécanismes de suivi, parce que quand on évalue, on se dit à la base, si j'adopte une stratégie, après coup, je vais évaluer son impact. Et je dis dès le départ quels sont les outils que je vais utiliser pour l'évaluer ensuite. Ce qui se passe, c'est qu'on a mis tout ça en place. Le milieu associatif était d'accord avec ces mécanismes de suivi-là qui allaient nous servir d'évaluation après, d'outils d'évaluation. Le problème, c'est que dans le bilan, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on dit non, finalement, là, écoutez, on a un problème au niveau statistique, même au niveau de la définition du handicap. Écoutez, c'est un peu trop large. Puis finalement, bien... Mais alors que, voyons, c'est pas cohérent. Tout le monde était d'accord que ces outils d'évaluation-là allaient être utilisés. Quand vient le temps de les utiliser, on dit que non, finalement, c'était peut-être pas les bons.
Mm-hmm. Et donc, cette deuxième phase qui devait démarrer, bon, qui devait se passer de 2014 à 2018, a été écartée.
Tout à fait. Et là...
Quelles en sont... c'est quoi le bilan en 2016 aujourd'hui et quelles en sont les conséquences?
Bien, exactement. En fait, c'est que notre fameux objectif de réduire cet écart-là de 50 % il est tombé dans l'oubli. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler, parce que c'est un objectif qui est beaucoup trop important pour être abandonné. C'est au cœur de notre intégration sociale, le travail. Et si on ne peut pas s'intégrer et qu'on y va pièce à pièce, disons, en portant plainte quand on est victime de discrimination et tout, mais on le sait, toi et moi, Maxime, on ne portera pas plainte pour discrimination à chaque fois qu'on en est victime. Donc, le problème, s'il est de nature systémique à la source, si on n'y travaille pas, la situation ne changera pas.
Tout à fait. Ça prend des mesures coercitives et ça prend aussi, justement, un objectif où tout le secteur public voit l'objectif de la même manière, travaille dans le même sens. Mais on parle aussi du fait que le secteur privé a été écarté à la base, au début de cette stratégie-là, où on visait davantage le secteur public.
En fait, pas tout à fait. Moi, je dirais que non, il y avait quand même les acteurs privés qui étaient pris en considération. On a même été consultés, les membres du patronat, des syndicats. Donc, je te dirais qu'au niveau de la stratégie, non, on essayait d'être le plus inclusif possible. Sauf que ce qui peut être un élément très important qui devrait, selon moi, d'un point de vue juridique, être intégré et aussi, selon certaines associations comme le CAMO, on devrait intégrer lors d'une deuxième phase la modification d'une loi qu'on a, la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Cette fameuse loi qui crée les programmes d'accès à l'égalité.
OK. Donc, c'est à ce niveau-là aussi qu'on doit amener des changements.
C'est là qu'il faudra amener des changements parce que c'est là, effectivement, où pour toi, ça va te sonner une cloche, tu vas me dire, c'est que cette loi-là couvre seulement le secteur public et non pas le secteur privé. Et donc, il faudra absolument faire en sorte que autant le public que le privé soient soumis à ces fameux programmes d'accès à l'égalité.
Exactement. Justement, et comme je disais, dans l'idée de travailler tous dans le même sens, sachant aussi qu'il y a une grande part de l'économie au Québec qui est entre autres dans les petites et les moyennes entreprises, les PME et les entreprises au privé. Christine Rousseau, il nous reste à peine 2 minutes. Qu'est-ce qu'il serait encore temps de faire pour réchapper cette stratégie-là, s'assurer qu'on puisse arriver à atteindre des objectifs en 2018? Il reste tout de même encore deux ans et demi, un peu plus même. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement est encore en mesure de faire en ce moment?
Moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs en conclusion de ma petite minute dans l'émission « Ça me regarde » quand j'ai dénoncé cette situation-là. Déjà, je pense qu'il faut sonner la petite sonnette d'alarme en se disant « Écoutez, attendez un petit peu, là, cette stratégie-là est d'or présentement alors qu'elle devrait être active. » Donc, il faut absolument que le milieu associatif se passe le mot et se dise « Non, 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 on ne laissera pas cet objectif-là tomber. Cette stratégie-là, elle a été adoptée. La deuxième phase, il faut mettre des pressions auprès du gouvernement pour qu'il respecte cette stratégie-là qu'il a lui-même adoptée. »
Justement, il n'y a pas des obligations du fait que c'est dans une loi?
Oui,
Est-ce qu'on a des recours en tant que citoyen?
Bien, les recours, je dirais que... Selon mon analyse, qui est quand même sommaire, parce que je travaille là-dessus pour un article qui va être sur lequel on va travailler davantage plus tard, mais je dirais que présentement, à la lecture de l'article, je trouve que le gouvernement, la manière dont il a procédé ici, réussit malheureusement à se glisser pas mal entre les mailles du filet. Donc, sauf que ça ne veut pas dire qu'on est sans recours. Les recours au niveau politique, des pressions politiques, nécessairement se doivent d'être utilisés ici.
Donc, on peut peut-être, à ce moment-là, aller en parler à nos députés et dire qu'on est préoccupé par cet enjeu-là.
Tout à fait.
Ça peut être une prise de parole à faire, ou même sur les médias sociaux, dans les médias aussi, aux associations régionales qui nous représentent.
Effectivement, parce que les médias, on a un pouvoir au niveau politique et on a un pouvoir, un énorme pouvoir maintenant grâce aux médias.
Merci beaucoup, Christine Rousseau. Je rappelle que tu es animatrice à Ami Télé, à l'émission « Ça me regarde », mais aussi avocate de formation. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cet enjeu aujourd'hui. On va certainement suivre le dossier avec toi. Merci.
Merci.